Mais jamais un chrétien cohérent ne dira que la parole des évangiles, dans les évangiles, le discours évangélique est de la même nature que ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire celle des prophètes. Ils savent très bien que les apôtres ne sont pas les prophètes. Alors faites bien attention à cela, l'usage du langage a dévitalisé tous ces mots-là. On dit de quelqu'un qu'il est prophète lorsqu'il a une inspiration, en fin de compte, de type imaginatif ou poétique. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, si on vous dira, les apôtres étaient des prophètes. Un peu comme nous disons, peut-être que Herzl était un prophète. C'est une manière de parler, vous comprenez ce que je dis. Je cite toujours ce vers de Musset qui m'a toujours frappé, et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit. Ils sont prophètes de cette manière-là, à la Musset, vous voyez. Et il y a beaucoup de sincérité là-dedans. Le poète, souvent, se croit prophète. Mais du point de vue de l'histoire de la religion, il est premièrement poète. Et il est possible que Mahomet ait été un grand poète. Mais il n'est pas prophète du point de vue de la prophétie hébraïque. C'est un apôtre. C'est un fondateur de religion qui avait une capacité poétique étonnante. L'arabe du Coran est une langue poétique exceptionnelle. Ça, il faut le savoir. Mais il se réfère toujours en second degré, en second lieu, parfois en tierce degré, à la prophétie hébraïque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mahomet est considéré comme un croyant de la prophétie hébraïque, qui a formulé à sa manière, un peu à la manière de Luther par la suite par rapport à l'orthodoxie catholique chrétienne, sa manière de continuer le message de la foi hébraïque. La cohérence, le postulat de cohérence de la tradition juive, c'est que cette phrase de la Bible, des Hébreux, et Dieu s'est adressé à Moïse pour lui dire est vrai, purement et simplement. Et hors de quoi, nous aurions, et ça vous explique énormément de dimensions de l'antisémitisme universel, nous aurions à mettre en question la tradition hébraïque comme une sorte de tromperie monumentale de l'humanité entière. Nous aurions à mettre en question le peuple juif comme étant le plus grand faussaire de l'histoire, parce que le monde a été secoué par la parole biblique. Et si c'était un pieux mensonge de dire « et Dieu m'a dit que », vous voyez, à la manière de Musset, et ça vous explique pourquoi l'antisémitisme européen est devenu si grave en même temps qu'est apparue la critique biblique qui met en question ce postulat de la tradition juive, qu'effectivement il y a eu un événement historique de révélation. Bon, c'était pas notre sujet, mais j'en profite pour... Est-ce que c'est bien clair, cela? Je vais vous citer un enseignement de notre maître, M. Bernard, un des plus coléas. Percutant et solaire, et qui disait ceci, la première fois que Amalek est apparu dans l'histoire biblique, à la sortie d'Égypte, c'est au moment où la société d'Israël sortant d'Égypte est prise de doute quant à son identité. Et le verset dit ceci, voilà comment est formulé le doute de la société d'Israël, Ayesh Hashem Bekirbenu Imani. Est-ce que Hashem est parmi nous, en nous, ou pas? Bon, le verset lui-même, ça pourrait faire l'objet d'un séminaire entier. Mais simplement, je vous traduis très, très directement, ça veut dire, est-ce qu'il y a eu révélation ou pas? Est-ce que vraiment nous sommes les porte-parole du Créateur, comme disent les prophètes qui s'adressent à nous, les Hébreux à l'intérieur de la société hébraïque, ou pas? Le verset suivant, c'est à la fin de la paracha de Béchalach dans Shemot. Le verset suivant, va y avoir Amalek. Dès qu'il y a mise en doute, est-ce que vraiment il y a eu révélation ou pas, Amalek apparaît. Vous savez qui est Amalek? C'est l'ennemi intime d'Israël, celui qui a le projet de néantisation d'Israël. Et je me souviens encore, nous sommes deux vivants, nous souvenons de cela, à quel point nous avons été secoués lorsque nous avons entendu cela. Eh bien, de notre temps, Amalek est apparu en Allemagne. Pourquoi? Parce que la critique biblique est apparue en Allemagne. La critique biblique, c'est ça, c'est cette mise en question. Est-ce qu'il y a eu révélation ou pas? Et il ne s'agit pas d'être fondamentaliste ou, je ne sais plus comment disent les protestants pour s'opposer aux fondamentalistes, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a qu'un hébreu qui peut comprendre que ce texte n'a pu être que révélé. Et parce qu'il nous raconte notre histoire avant qu'elle se passe. Et comme j'ai souvent cité aussi cela, du même enseignement, ce livre, la Bible, lorsqu'il est lu en hébreu par un hébreu, c'est un livre qu'aucun homme n'a pu écrire, parce que le héros du livre, c'est le lecteur. Vous comprenez? Là, nous sommes dans une expérience religieuse positive, concrète. Elle concerne l'histoire de la réalité, et non pas l'exploration de la possibilité théologique de l'idée de Dieu pour donner un sens à ma vie. Ça, c'est la religion des païens. Je ne sais pas comment. J'ai dit ça un peu trop violemment, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Hein? Et vous rappelez de la critique que Kant a faite à la preuve de l'existence de Dieu par Descartes, qui a amélioré un peu la preuve de saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle la preuve ontologique. D'accord ? Oui. Kant a répondu en une phrase, tu viens de démontrer que l'idée de Dieu est possible, mais dans l'existence, dans la réalité positive concrète, est-ce que un être correspond à cette idée ? Ça, il y a que les Hébreux qui peuvent dire, oui, nous avons assisté à des événements de révélation. Alors, où on met en question la bonne foi, la dignité et la... je cherche un mot, mais vous comprenez l'idée, du peuple juif, où on le condamne, où on l'accuse d'être le plus grand faussaire de l'histoire, et c'est ça l'antisémitisme universel. Est-ce que c'est clair ? Oui. Quand Hitler se déchaîne, il se déchaîne quand les Juifs eux-mêmes, et ça a commencé en Allemagne, on doute sur cela. Et alors, M. Gordin a cité la Kabbalah, j'ai retrouvé, c'est sûr, chez les Kabbalistes, que la valeur numérique du Mohammed,
c'est doute.
Et la valeur numérique du Mohammed, c'est la même. Safek, ça veut dire le doute, et Amalek, ça veut dire Amalek. Mais c'est la même valeur numérique, on va la compter ensemble, 180 et 60, 240, hein, c'est bien ça ? Oui. 240, et là
140.
100.
Je passe.
70 et 70, 240. Voilà. Et il y a une équivalence entre Amalek et Safek. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du thème ? C'est que le doute, c'est un Amalek intérieur, et que Amalek, c'est la mise en doute extérieure. Mais c'est relié, vous comprenez ? Dès que l'identité hébraïque doute d'elle-même, alors Amalek surgit. C'est grave comme problème. Mais c'est bien clair, je crois qu'on ne peut pas en sortir. Ou bien, le peuple juif, en tant qu'héritier des Hébreux, a mené l'humanité en bateau, comme on dit, sur des fausses pistes, que c'est la morale qui est le sens de l'histoire, que premièrement il y a un sens à l'histoire, et que c'est la morale qui est le sens de l'histoire, ou bien, ce qu'a dit la Bible est vrai. Et la Bible a dit vrai, pas parce qu'on a trouvé des vestiges dans les sables, parce que le peuple juif existe avec sa mémoire. C'est toujours à l'évite que je vous cite là en quelques phrases. C'est bien clair ? Alors pourquoi nous sommes partis de là ? Oui, ce que je disais, c'est que dans les autres sociétés humaines, nous avons ou cette ligne-là, l'homme aime Dieu, ou bien cette ligne-là, j'entends, je sais, je crois que Dieu aime l'homme. Mais il n'y a jamais eu de rencontre entre les deux. Lorsque la rencontre se fait entre les deux, il y a le phénomène qui s'est passé en Israël de révélation réciproque. Dieu parle à l'homme, et l'homme parle à Dieu, révélation, prière. Et l'homme parle à un Dieu qui a parlé. Et l'homme parle à un Dieu qui existe, et pas à l'idée de Dieu auquel on croit, parce que si on ne croit pas, on est perdu, alors qu'il faut être sauvé. Vous voyez à peu près quel est le problème. Je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup impressionné dans le dernier des juges de Schwarzbach. Lorsque je ne sais plus quel héros du livre découvre que Dieu n'existe pas. Et en même temps, tout vacille, perdu, Dieu n'existe pas, alors on est perdu. Le sujet d'hier soir. Alors vanité des vanités, alors... Vous voyez, c'est une expérience que n'importe quel homme peut avoir, mais c'est pas ça la religion biblique. La religion biblique, c'est qu'il y a eu un événement historique de révélation. Voilà, et on peut refermer la parenthèse, et vous voyez donc la gravité de la critique biblique. Et malheureusement, beaucoup de juifs pratiquant d'autre part ou croyant d'autre part, soit pour des soucis de carrière universitaire, soit, et c'est plus grave, pas pour des soucis de carrière universitaire, manie la critique biblique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça ne veut pas dire que les questions que posent les exégèses de la critique biblique ne sont pas parfois intelligentes, parce que ce texte est difficile, il est déroutant, il est étrange, il est incompréhensible si on ne se réfère pas à l'éclairage par la mémoire. Parce qu'on nous raconte une histoire, l'histoire de l'amour entre Dieu et sa créature, tout ce qui s'est passé en Israël. Eh bien... souvent, les questions de la critique biblique sont pertinentes, mais les réponses sont toujours d'une platitude épouvantable, infra-infantile. Et d'où ça vient ? Eh bien, là, c'est fait de grave. Et avec cette espèce de principe insidieux de la mise en question antisémite. Moi, je suis toujours étonné comment ces grands professeurs de Bible, entre guillemets, s'appuient sur la critique biblique sans s'apercevoir qu'ils s'assassinent eux-mêmes, qu'ils se suicident. Genre le juif suisse, le suicide. Alors on referme la phrase. Bien. Alors, voilà donc le plan. Rappelez-moi, d'où était venue votre question ?
C'est ça ?
Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a là une religion naturelle, et la diffusion de l'enseignement biblique fait que des millions, des milliards de consciences à travers le temps ont pris pour objet de leur amour pour Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas l'allusion, Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a d'autre part le fait, et alors là il y a les deux catégories. On a entendu de la Bible que Dieu aime les hommes. Si ce n'était pas écrit, on ne saurait pas. Parce que le monde est tel que c'est une hypothèse bizarre que Dieu aime les hommes si le monde était que ce qu'il est. Et c'est clair ce que je dis? Il a fallu qu'il y ait une révélation pour nous le dire. Sinon, on ne le deviendrait pas tout seul. Est-ce que c'est clair? Oui. Et puis, d'autre part, l'univers mythique, mythique de la mythologie, qui n'est pas forcément mythique dans le sens absolument négatif du terme, et où toutes ces sociétés antiques ont eu contact avec des êtres qu'ils appellent des dieux, qui en général sont la représentation personnalisée des forces de la nature, d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec l'événement de révélation historique du Dieu de la Bible à travers le prophète d'Israël. Et c'est pourquoi les philosophes le savent, les philosophes du déisme le savent, il y a une telle ambiguïté dans la confrontation entre la philosophie et la théologie traditionnelle sur l'idée de Dieu. De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est bien clair? Bien, et voilà donc ce que je disais. Il y a ce chir-là, le champ d'amour de la créature au créateur, et il y a ce chir-là, le champ d'amour du créateur à la créature. Au niveau de l'expérience humaine, du couple, qui est la base d'expression de ce discours, il y a l'amour de lui pour elle, il y a l'amour de elle pour lui, mais ici il est parlé d'un autre champ, qui est le champ de lui à elle, ni le champ de elle à lui, qui est le champ qui procède du fait que les deux champs se sont rencontrés, le chir, le chir. Vous avez vu à quel point la lecture hébraïque de cette expression est radicalement différente de celle qu'on aurait tendance de lire dans un simple superlatif, le meilleur des champs. En quoi c'est le meilleur des champs? Rabbi Akiva l'a expliqué, parce que tous les champs sont Kodesh, ce champ est Kodesh, mais le Kodesh à Kodashim, là où se révèle Dieu à Israël, le Kodesh à Kodashim, là, c'est parallèle au Shirashim. Le Shirashim est Kodesh à Kodashim. Et renvoie en réfutation le Havel Havalim dont nous avons parlé hier. Mais je crois que c'est très important de garder ces trois expressions parallèles. Shir Hashirim, Kodesh HaKodashim, Havel Havalim. Vous vous rappelez que c'était la même lecture hier soir. Havel Havalim, le souffle du souffle. Le souffle des souffles. Vous vous rappelez? Et pas seulement le plus souffle des souffles. Ce n'est pas une différence de degré. Dans cette différence de degré, il y a plus. Il y a une différence de nature. Voilà pourquoi Rabbi Akiva a pu dire le monde n'a eu de sens que le jour où le Shir Hashirim a été donné, il l'ajoute à Israël. Voilà, on a refermé la même. C'est clair? Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui.
La loi et le lien entre lui et elle, c'est la loi.
Oui.
Il devient la loi lorsque la rencontre en Dieu.
Écoutez, je dis, Dieu ne s'est révélé essentiellement que pour nous donner la loi. Si Dieu se révèle pendant tout le courant de l'histoire de ce monde-ci, où nous sommes en apprentissage, vous vous rappelez, eh bien, c'est pour nous donner le mode d'emploi, c'est pour nous donner la loi. Mais cette loi ne serait pas efficace si elle n'était pas sous-tendue par une expérience d'amour. C'est-à-dire, l'amour est indispensable pour que la loi fonctionne. Mais ce qui est important, c'est la loi. Parce que quel est le problème que nous avons résolu? C'est le problème de la relation de l'un à l'autre. Ce n'est pas pour rien, encore une fois, j'y reviens toujours, mais c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, je pense que toute la pensée juive contemporaine est occupée à ce problème. Ce n'est pas pour rien que le récit historique de la Bible commence avec le problème de Caïn et Abel. Et que tout, nous avons étudié cela de mille manières, et nous l'étudierons encore pendant mille fois, que tout le récit historique, c'est pour nous expliquer que cette équation insoluble dans le reste de l'humanité trouve une espérance de solution dans l'histoire d'Israël. Caïn tue Abel. Mais en fin de compte, à travers toutes les étapes d'amélioration de ce problème dans l'histoire des patriarches, Joseph et ses frères font la paix. Et c'est là qu'apparaît Israël, qui est le porteur de la loi. Il faut qu'il y ait d'abord, vous rappelez Rabbi Akiva, ce même Rabbi Akiva, Ve'ahavta le'ra'acha kamocha, zeklal gadol v'Torah. Voilà ce que dit Rabbi Akiva. Le principe fondamental de la loi, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez l'inconséquence chrétienne d'avoir opposé le principe de la loi. Mais je pense que la société chrétienne contemporaine est en train de judaïser. Depuis Vatican II, elle se rend compte qu'il faut incarner la morale évangélique dans la cité. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Vous voulez que j'en... Le choc de Vatican II, c'est on se cherche un Talmud. On ne dira pas ça comme ça, parce que le Talmud, ça fait lui. Hein?
Ça dépend,
oui. Mais je veux dire, l'événement de Vatican II, c'est... il y a une maestria de vocabulaire extraordinaire chez les Vatican, ça c'est... spécialiste, leur performance. On s'est trompé sur tout, mais on reste infaillible. et alors, mais en tout cas, peu importe, l'essentiel, c'est que le monde soit sauvé. Mais quel est le souci de ce maelstrom de mutation de la conscience chrétienne contemporaine? C'est d'incarner, je prends leur langage, d'incarner la morale évangélique dans la cité. Mais c'est ça le judaïsme. C'est d'incarner la morale de la Bible dans l'histoire. Et non pas dans un ailleurs mythique, espérantiel, et purement espérantiel. Vous comprenez le
comportement?
Ça dépend, le pari de Pascal, c'est pas tellement hypothétique. Il a des raisons de parier ce pari. Vous savez de quoi il s'agit dans le pari de Pascal.
Mais alors il faudrait la faire sans arrêt une lecture juive des évangiles.
Ah non, je crois que c'est... Je crois que je vais vous dire. Ma position personnelle, c'est que tant que l'antisémitisme chrétien n'a pas terminé, assourd. Interdit. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est évident que la société chrétienne a besoin d'une lecture juive des évangiles. C'est évident. Pendant 2000 ans, ils nous ont dit que nous avions besoin d'une lecture chrétienne de la Bible. Comme on disait, oui, alors celui-là, on l'attend au tournant. Mais comme on disait à la Nouvelle, il y a la veille, je dis. Oh mon père. Je sais pas avec quel accent. Je ne sais pas si je vais avoir l'accent alsacien, lituanien ou polonais, mais ça se dit Weber. En réalité, c'est vrai, et c'est même sérieux, c'est que ces lignes ont été rédigées par des juifs, et qu'il n'y a que des juifs qui peuvent décrypter, décoder ce dont on est parlé dans la tentative évangélique, qui a capoté, qui a échoué. L'état du monde après 2000 ans d'histoire de l'Occident, c'est clair. Mais à l'échelle individuelle, pas forcément. À l'échelle individuelle, la société occidentale a sorti des merveilles. Mais en tant qu'attitude devant la vie, c'est un échec monumental. Je pense que c'est bien clair ce que je dis là. Pas question de généraliser. Vous savez, la pensée généralisante est une pensée totalitaire et fascinante. C'est connu de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'échelle individuelle des hommes d'Occident, chrétiens ou autres, qui ne sont pas des merveilles humaines, je ne sais pas comment dire ça, des grands hommes et des grands justes et des grands saints, il n'y a pas de saints, mais enfin, ça cherche un peu de ce côté-là. Je pense que c'est clair. Mais comme attitude devant le problème de l'histoire humaine, dans son implication religieuse notamment, c'est un échec énorme. Alors, on me pose la question, mais donc il faut aider les chrétiens à s'imprégner de cette lecture juive. Eh bien, j'y ai cru, moi, il y a 35 ans, jusqu'à ce que j'ai découvert que l'antisémitisme chrétien est, indépendamment, encore une fois, des réussites individuelles, d'amitié, l'antisémitisme chrétien et n'a pas du tout été évacué. Alors, tant qu'il s'agit d'une société antisémite, anti-juive, pour dire les choses clairement, c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Mais je vous dis, en général, ceux qui s'occupent de ça, d'éclairer du sens juif des textes chrétiens chez les chrétiens, sont des ignorants pointés, alors c'est pas grave, ils les mettent sur des fausses pistes en plus. Est-ce que vous avez bien parlé de tout ça? Non, c'est rapidement. Remarquez, c'est pas mal qu'on fasse la séance de ce matin à des questions, mais j'en parlais.
Je ne permettrai pas de contester votre vérité, cher maître, mais en ce qui concerne la conjugaison des deux genres, vous m'appelez un plein de genres. Je ne vais pas me mettre à chanter, mais on va faire ça, c'est un plein de genres. Ne pouvez-vous pas considérer ce plein champ, considérer que l'union mysticale de certains mystiques chrétiens est un plein champ, et que le principe nirvana dont parle tout le grand mystique à nous, n'est-ce pas, n'est pas une union mystique réelle telle qu'elle est révélée également avec ses mains. Mystique. Vous me contesterez évidemment qu'il n'y a pas de point de vue historique dans le nirvana. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Seulement, cette union mystique n'est pas quand même valable.
Écoutez, vous avez donné clairement la réponse à votre question dans sa formulation. C'est un événement mystique. Mais sinon, ce n'est pas, c'est ce que j'ai appelé un peu de la psychomystique, mais ce n'est pas l'événement historique de révélation, de présence de quelqu'un à quelqu'un dont parle la récidive. Et là, je suis tout à fait obscur, mais c'est ce que nous appelons, nous tenant de la tradition hébraïque, la religion naturelle païenne, sans que ces mots n'aient de sens péjoratif a priori. C'est clair?
C'est clair de votre oui. Je suis d'accord avec vous, mais moi,
C'est devenu une citadine avec l'Inde quand même. Gilles l'Inde. Écoutez,
moi, si l'Union va là, des fois, c'est l'Inde, c'est l'Inde.
Je comprends, mais c'est pas quelqu'un.
Ah, je suis désolé, je suis là, je comprends, c'est quelqu'un. Elle sauve votre histoire, je vous conseille. Votre force et l'histoire.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est très important. Ça veut dire que, je voudrais être très clair, vous pensez bien que lorsque les grands prophètes d'Israël, lorsque les grands maîtres d'Israël à travers les siècles et les millénaires, se sont opposés au paganisme, il ne s'agissait pas essentiellement du paganisme de niveau superstition, fétichiste, anémique, etc. Il s'agit de ces grandes cultures de la religion naturelle. Et dans la mesure où cette expérience mystique mène à la moralité, alors il y a plus d'amitié, nous sommes du même côté. Mais malheureusement, la plupart du temps, ces expériences mystiques représentent une tentation et une tentative de refus de l'histoire et de refus d'incarnation de la moralité dans l'histoire. C'est-à-dire, je dirais sous forme d'image, le secret reproche de la loi de Moïse par rapport à de telles expériences mystiques, c'est de priver l'humanité dans son histoire de ses valeurs exceptionnelles, de ses expériences mystiques. C'est ce que je dis souvent avec beaucoup de fraternité et d'amitié à beaucoup de mes amis théologiens, surtout catholiques, qui sont célibataires. C'est dommage que vous n'ayez pas d'enfants, parce que vous privez l'humanité des enfants que vous pourriez avoir. Les protestants ont un peu compris cela, si vous voulez. C'est un peu... Je ne nie pas, si vous voulez, l'événement mystique, pas du tout. Mais je dis que ça n'a rien à voir.